Bonjour, bienvenue pour cette 11e séance du séminaire presse qui sera donc consacrée aux fanzines, à l'émergence d'une presse alternative donc dans les années 60, à partir des années 60, avec l'exemple de Midi Minuit Fantastique, une revue donc qui a connu 24 numéros de 1962 à 1972, qui, malgré une diffusion assez confidentielle durant ces 10 années, est devenue aujourd'hui une revue culte que les collectionneurs s'arrachent sur les sites de revente d'occasion et qui fait actuellement l'objet d'une réédition dans une superbe édition intégrale collector. 4 volumes sont prévus aux éditions Rouge Profond, 3 d'entre eux sont déjà sortis. C'est une entreprise éditoriale qui se prolonge sur plusieurs années, puisque il est nécessaire de ressaisir l'ensemble du texte de la revue, tout en recherchant les documents iconographiques qui ont été publiés à l'origine pour les restituer dans la meilleure des qualités possibles. C'est donc un projet de très grande envergure qui a été mené par Nicolas Stanzik, dont je vais vous reparler, avec Michel Kahn, donc l'un des deux cofondateurs de la revue qui a disparu depuis le lancement de ce projet. Midi Minuit Fantastique, MMF pour les intimes, c'est la première revue européenne dédiée au cinéma que l'on appelle aujourd'hui de genre, même si le terme n'était pas tout à fait en place dans le milieu des années 60, lorsque la revue émerge. Le nom de cette publication, cela est illustré par cette première slide de présentation, provient donc est un clin d'œil, une référence à une salle de cinéma qui s'appelait donc le Midi Minuit, une salle que l'on a surnommée plus tard le temple du cinéma bis. Là encore, cette expression également est un petit peu plus tardive. Une salle créée en mars 1947 par Roger Boublib. Il s'agissait d'une salle d'exclusivité de 500 places, située au 14 boulevard Poissonnière, donc presque en face du Rex. Elle ouvrait tout d'abord de midi à minuit, ce qui lui a donné son nom, puis de 10h à minuit, et la séance du mercredi matin à 10h en particulier est rapidement devenue une sorte de lieu rituel où se rassemblait tout un public amateur de films bizarres, violents, insolites, étranges, du fantastique à l'érotisme. Bien évidemment, un public essentiellement masculin, comme vous pouvez le voir au travers de cette image, mais néanmoins, voilà, assez hétérogène d'un point de vue social. C'était une période où le public populaire se rendait encore dans les salles de cinéma, et cette dimension populaire, elle fait partie de l'identité du midi-minuit, comme vous pourrez le voir sur les images, les slides suivantes, puisque la salle jouxtait un bar-tabac, donc on pouvait tout à fait aller boire un verre et aller voir ensuite un film, ou l'inverse. Cette salle, elle a également pour particularité de posséder une architecture très particulière. Vous apercevez ici donc les panneaux publicitaires qui pouvaient être proposés pour la sortie événement de certaines productions de la Hammer, comme Le Cauchemar de Dracula. Et l'intérieur de la salle participait finalement du spectacle, puisqu'elle ressemblait à une sorte de caverne, de crypte, ou encore de train fantôme. accueillant donc finalement ce public et l'immergeant déjà dans une sorte d'atmosphère étrange, un public âgé en principe bien sûr de plus de 18 ans hein, pour les films projetés dans cette salle. Et c'est sans doute ici, hein, Boulevard Poissonnière, au midi minuit, que s'est cristallisé des pratiques cinéphiliques hein, que l'on a ensuite rattachées à un mouvement cinéphile appelé le midi-minuisme, donc en référence à la salle, mais aussi à la revue qui apparaît en 1962. Sur la slide numéro 2, donc vous avez deux autres images hein, du midi-minuit, cinéma permanent accueillant, vous le voyez, des projections entre guillemets interdites ou atypiques, sortant évidemment de la norme des films couramment projetés. Des films de consommation courante. Cela va donc de films fantastiques, d'horreur, de vampires, le film de Jean Rollin ici, à des films érotiques. Un autre exemple avec La Veuve de José Benazeraf, La Veuve Lubrique. Dans la troisième slide, 1975. Sur ces différentes images, vous voyez bien le bar-tabac. Hein, donc j'ai choisi ces photographies pour cela, puisque véritablement, hein, c'était quelque chose de constitutif de l'identité populaire de ce lieu de divertissement. Slide numéro 4 pour cette séance. Je vais m'appuyer donc sur les travaux de Nicolas Stanzik, qui est un journaliste, critique de cinéma, qui est notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Dans les griffes de la Hammer. Donc c'est un travail d'histoire culturelle hein, sur la réception des films produits par le studio britannique en France. Et comme je vous le disais, hein, il est également donc, à l'initiative avec Michel Caen de cette superbe publication hein, de Midi Minuit Fantastique en intégrale augmentée et restaurée donc aux éditions Rouge Profond. Je vous invite donc à consulter, hein, si vous le souhaitez, ces ouvrages en bibliothèque. Vous pouvez également surfer sur le site Midi Minuit Fantastique l'intégrale, qui vous propose différentes ressources, hein, des liens vers certaines des vidéos, par exemple, qui accompagnent les différents volumes hein, sous la forme d'un DVD. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil voilà, pour vous plonger dans l'atmosphère de ce cours. Slide numéro 5, donc je vais vous présenter un petit peu, avant de vous parler de la revue elle-même, vous présenter les personnalités qui animent cette revue. C'est bon, à la fois toujours important hein, lorsqu'on étudie un objet de presse, de s'intéresser à ses fondateurs. Et c'est particulièrement le cas, hein, bien sûr, pour ce type de presse qui possède, on l'avait évoqué hein, dans le premier cours, une dimension communautaire plus forte que les précédents objets que l'on a pu étudier. Et ça commence, en fait, hein, cette dimension communautaire dès la fondation de la revue en 1962. Alain Lebris et Michel Caen sont les deux premières personnes hein, donc, qu'il me faut citer à l'initiative de cette aventure fantastique. Le terme est approprié puisque il s'agissait de deux jeunes étudiants en médecine d'à peine 20 ans. Donc je n'ai pas retrouvé la date de naissance d'Alain Lebris, mais on sait que Michel Caen est né en 1942. de jeunes étudiants, donc pas du tout des professionnels, bien sûr, du journalisme, de cinéphiles finalement, qui fréquentaient assidûment la salle du midi-minuit et qui ont eu l'idée, un peu saugrenue, de créer une revue pour défendre ce cinéma dans un contexte où personne ou presque n'avait parlé autrement de ce genre, autrement qu'avec mépris, ironie ou un discours de haine qu'il est parfois un petit peu étonnant hein, de découvrir aujourd'hui. On mesure mal. Hein. Aujourd'hui, le cinéma fantastique n'est pas toujours accepté hein, comme il devrait l'être. Enfin, bien sûr, il peut toujours être vu de manière condescendante, mais à l'époque, cela prend vraiment la forme d'une violence qu'il est un petit peu difficile à imaginer. Alors, pour faire connaissance avec Michel Caine, donc malheureusement, on a très peu d'informations sur Alain Le Bris, aucune interview vidéo, très peu de photographies également. Donc, je vous en montrerai une des rares que l'on possède dans la slide suivante. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sur lequel on a beaucoup moins de renseignements. Michel Caine, en revanche, a donné un certain nombre d'entretiens, prenait beaucoup plus fréquemment la parole, et notamment donc dans ce document, un petit entretien avec lui. C'est le premier extrait que je vous propose de regarder pour faire connaissance avec cette personnalité singulière. Au moins deux choses intéressantes à retenir de cet extrait, donc qui date de 1968, 6 ans après la création de la revue. Premièrement, donc, on vous parle de tout un ensemble de manifestations et d'objets annexes, des revues, des fanzines, des publications spécialisées, des projections à minuit dans les salles de quartier. Donc ça nous indique bien hein, qu'il y a voilà, une cinéphilie particulière hein, qui se développe, qui se met en place avec ces pratiques qui lui sont spécifiques. Et la seconde, c'est une forme de légitimation qui semble en tout cas être en voie d'opérer, hein, puisque voilà, Michel Caine est invité en tant que fondateur de cette revue ici, aux côtés d'artistes, de cinéastes, d'intellectuels, à parler sérieusement du cinéma fantastique, ce qui déjà traduit une évolution hein, par rapport à quelques années en arrière et au contexte dont je vais parler par rapport à la création de la revue en 1962. En tout cas, voilà, je trouvais intéressant que vous puissiez entendre Michel Caine et avoir un aperçu aussi hein, de la richesse de ces documents mis à disposition en relation avec l'intégrale MMF. Et je poursuis avec la slide 6 pour que vous puissiez faire connaissance avec le reste de la bande qui va être à l'origine de la création de cette publication. Michel Caine et Alain Le Bris vont être rejoints par deux hommes plus âgés pour travailler ensemble au début de la revue. Tout d'abord, Jean-Claude Rohmer, qui est né en 1932, que vous pouvez voir à droite des deux images réunissant trois personnes, hein, donc l'image en haut à gauche et l'image de droite, avec les lunettes de soleil. Jean Boulet, également, deuxième personnalité importante ici, né un peu plus tôt, en 1921, il est au centre de l'image du haut et également en bas dans cette librairie hein, qu'il a un moment tenue et dans cet accoutrement qui était tout à fait emblématique de sa personnalité singulière. Alors, Jean-Claude Rohmer, quelques éléments pour vous le présenter, c'est quelqu'un qui a une grande culture encyclopédique, qui deviendra rédacteur en chef de Midi Minuit Fantastique en remplacement d'Alain Lebris après le numéro 6. On considère que c'est lui et Michel Caen hein, qui forment véritablement le duo mythique de Midi Minuit Fantastique. Ils participeront ensemble également à des programmations au cinéma Racine, puis au studio de l'Étoile. C'est quelqu'un que l'on va retrouver hein, également à l'initiative de différents articles dans la revue. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans cette séance. Et concernant Jean Boulet, donc, c'est quelqu'un qui est plutôt un artiste, multi-casquette, à la fois dessinateur, illustrateur, écrivain, collectionneur également, quelqu'un d'assez érudit, mais avec une personnalité très différente, bien sûr, de Jean-Claude Rohmer, une personnalité que l'on peut qualifier de libertaire. C'est quelqu'un qui est considéré hein, comme un des pères fondateurs de la contre-culture et de l'underground culturel français, qui s'habillait presque toujours vêtu de cuir noir, qui était engagé hein, dans la défense des cultures minoritaires et dans la revendication d'une certaine marginalité également, revendiquant son homosexualité à une époque où cela était voilà, extrêmement effectivement difficile à assumer sur la place publique. Quelqu'un qui avait une passion dévorante hein, pour le cinéma fantastique dès les années 1930 en découvrant les classiques de la Universal, donc les mêmes classiques que la Hammer entreprendra de remettre au goût du jour quelques années plus tard. Plus largement, une passion pour les monstres, des figures qu'il. Auquel il s'identifiait, hein, et il a aussi bien publié des ouvrages sur ce thème, un ouvrage intitulé « La Belle et la Bête », par exemple, que vous pouvez découvrir dans la slide 7, que donc des œuvres, des dessins, des poèmes en relation avec ce thème. Il a fait des illustrations, hein, par exemple, pour Boris Vian. Il y a eu une exposition, d'ailleurs, hein, récemment à Paris, qui a rendu hommage à la grande qualité, la grande inventivité de ses travaux graphiques. Vous avez une illustration à gauche qui le montre également en train de se faire tatouer. Hein, donc, vous pouvez voir que son corps était recouvert de tatouages. À une époque aussi hein, où c'était quand même très peu courant et où cela avait une signification peut-être plus profonde que dans beaucoup de cas aujourd'hui. Alors je ne veux pas dire que le fait de se faire tatouer aujourd'hui n'a plus de signification, mais disons que cette pratique s'est un petit peu mainstreamisée, alors qu'à l'époque c'était réellement un signe de marginalité ostentatoire, de même que de s'habiller de cette manière avec un blouson, un pantalon en cuir, ça vous inscrivait, hein, de facto dans l'espace social en tant que personnalité marginale, ce qui était quelque chose que Jean Boulet revendiquait pleinement en relation à son attachement donc au monstre. Et pour donc vous donner un petit peu un aperçu hein, de cette personnalité particulière, je vous propose de l'écouter. Dans cet extrait, donc Les Monstres, entretien avec Jean Boulet. Je ne commande pas hein, cet extrait, bon, on pourrait revenir sur cette comparaison intéressante, je trouve, entre Les Monstres et les nouvelles stars du rock'n'roll, comme les Beatles ou les Rolling Stones. Jean Boulet a connu donc un destin un petit peu tragique, hein. D'abord un grand nombre de dettes l'ont conduit à partir, s'installer en Algérie, en fermant donc sa librairie que vous avez pu voir, hein, spécialisée dans la bande dessinée et tous ces thèmes de prédilection tels que le fantastique, l'horreur, la science-fiction, la magie. Et il a connu donc une. Il est mort dans des circonstances encore extrêmement troubles. Hein. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Apparemment, il aurait été retrouvé pendu à un arbre donc durant l'été 1970. Et il nous reste hein, voilà, un héritage assez, assez important, à la fois en termes donc de d'œuvres graphiques en particulier, d'ouvrages, et également par finalement l'influence qu'il a pu exercer auprès en particulier de générations plus jeunes, hein, Alain Lebris, Michel Caen, Jean-Claude Rohmer sont des gens qui ont voilà, ont pu s'inspirer de Jean Boulet pour concevoir cette aventure éditoriale et notamment dans sa volonté d'exploration hein, de territoires qui étaient situés tout à fait en dehors de la norme et qui n'avaient guère droit de citer ailleurs. Slide 8, pour faire paraître Midi Menu Fantastique, il fallait un éditeur et cette équipe hein, qui s'est réunie autour d'Alain Lebris, de Michel Caen, l'a trouvée en la personne d'Eric Losfeld, donc quelqu'un aussi qui avait une personnalité tout à fait singulière. Il tenait une librairie anticonformiste nommée Le Terrain Vague, rue du Cherche-Midi à Saint-Germain-des-Prés. C'est lui qui aurait proposé donc aux deux jeunes étudiants en médecine de publier un numéro spécial Terence Fisher en relation avec son travail pour la Hammer. Et par la suite, hein, de ce premier numéro, s'en est suivi la création véritable d'une revue qui a été publié pendant 10 ans, donc, et 24 numéros. Eric Losfeld est quelqu'un d'intéressant, notamment pour la grande hétérogénéité de ses goûts culturels, dans sa librairie comme dans les publications qu'il a pu éditer. Vous trouvez aussi bien de la poésie surréaliste, publications extrêmement sophistiquées, intellectuelles ou légitimes culturellement, et en même temps, voilà, des bandes dessinées. Il a contribué à l'édition de Barbarella, par exemple. Et sa librairie était aussi un lieu de rencontre hein, pour voilà, des gens qui avaient soif de culture dans une grande diversité du terme. Et en relation avec le cinéma, vous savez peut-être aussi hein, que le Terrain Vague sera pendant un certain nombre d'années hein, l'éditeur de la revue Positive, donc une des principales revues par rapport à l'animation de la cinéphilie savante. Donc là aussi, c'est intéressant de voir que finalement, Midi Minuit Fantastique, par ce compagnonnage éditorial, hein, navigue autour voilà, de différentes sphères, pas uniquement des sphères relatives à la culture marginale. Hein. Quelqu'un comme Jean Boulet peut incarner cette dimension, même si c'est aussi quelqu'un qui a travaillé hein, avec des personnalités beaucoup plus installées et plutôt dans des sphères culturellement légitimes. C'est quelqu'un qui a connu énormément de personnalité, qui a travaillé aussi bien avec Boris Vian, Jean Cocteau, Juliette Gréco, etc. Mais c'est vrai que du point de vue éditorial, hein, la collaboration avec Eric Losfeld a permis à Midi Mini Fantastique de recevoir une forme de légitimité, même si C'était un éditeur, voilà, tout à fait atypique. Même si tout le monde ne s'aventurait pas dans cette librairie extrêmement anticonformiste, hein, pour l'époque, donc dans les années 60. Slide 9. Le premier numéro donc va porter, hein, sur Terence Fisher et Ella Hammer, puisque à cette époque, le cinéaste revitalise les classiques des années 30 en couleur, par exemple Dracula, en montrant ce qui était auparavant suggéré, et ce sont des films qui vont souvent faire scandale, hein, en raison de cette charge érotique et sanglante nouvelle, qui va favoriser le développement des cinémas et des cinéphilies alternatives dans les années 60, et dont Midi Minuit Fantastique, si vous voulez, va célébrer, hein, la dimension transgressive, jouissive, contestataire dès le numéro 1. Et pour que vous ayez une petite idée de l'esthétique, hein, bien sûr, des films de la Hammer, qui vont aussi, hein, faire office un petit peu de cousinage pour que Midi Minuit Fantastique développe sa propre identité, je vous invite à regarder le tout début du Cauchemar de Dracula. Il y aura d'autres extraits de ce film ensuite, mais simplement donc le générique, pour apercevoir, hein, la manière dont une gerbe de sang vient éclabousser le nom du comte Dracula. Et ça vous donnera un bon aperçu finalement de la manière dont la couleur est utilisée, de manière extrêmement graphique et stylisée dans ces films de la Hammer, en particulier ceux de Terence Fisher, avec également toute la symbolique transgressive de cette éclaboussure peut correspondre à du sang, mais peut aussi, d'un point de vue symbolique, être relié à d'autres, à la projection d'un autre type de liquide. Et c'est quelque chose, une forme d'ambiguïté, hein, bien sûr, sur laquelle se plaît à jouer le cinéma fantastique et d'horreur, du point de vue de la transgression que cela peut susciter dans le contexte de l'époque. Et c'est quelque chose auquel Midi Minuit Fantastique sera extrêmement sensible, là aussi, hein, explorer toutes les zones jugées interdites, immorales, par rapport à une société, hein, qui à l'époque est encore extrêmement traditionnelle et conservatrice, que l'on parle d'ailleurs de la société française du tournant des années 60 ou de la société britannique, avec différentes correspondances que l'on peut faire entre les deux de ce point de vue-là à cette époque. Slide 10, pour commencer à mesurer l'aspect transgressif, radical, nouveau, du geste consistant à publier, hein, pour la première fois en France, une revue dédiée au cinéma fantastique, avec La Hammer et Terence Fisher en couverture. Je vous propose de lire donc ce document. C'est un témoignage de Jean-Claude Rohmer en 2000, revenant donc sur la publication, hein, 40 ans plus tôt, du premier numéro de la revue. Alors, il faut toujours se méfier un petit peu, hein, des témoignages, des récits rétrospectifs, qui ne sont pas forcément toujours les plus fiables. Néanmoins, ça m'a semblé intéressant ici de vous donner accès à ce document, à cette parole, pour vous remettre un petit peu en perspective et en contexte la création de Midi Minuit Fantastique. Je cite donc Jean-Claude Rohmer. « Rappelons qu'en ce début des années 60, oser aborder sérieusement un genre cinématographique alors aussi méprisé, s'attacher à révéler des œuvres pourchassées et mutilées par des censures inexorables, prenait des spectacles dont, pratiquement, aucune autre revue ne mentionnait même l'existence, sinon pour les condamner ou ironiser, bref, s'enthousiasmer pour des films qui n'intéressaient apparemment personne sauf le public, cela revenait véritablement de la gageure. On peut en effet s'en rendre compte en observant la réception du cinéma fantastique à cette époque, donc dans le reste de la presse, et un exemple représentatif de la défiance envers le genre de la part de la presse spécialisée, vous êtes illustré donc par cette critique de Radio Cinéma Télévision consacrée au cinéma de Terence Fisher, qualifié d'attentat caractérisé à la dignité du public. Le cinéma, qui est un art noble, est aussi, hélas, une école de perversion, un moyen d'expression privilégié pour entretenir ou même créer une génération de détraqués ou d'obsédés. Donc, sans doute, toutes les critiques des films de la Hammer n'ont pas reçu de commentaires aussi violents. Néanmoins, ceci était tout de même monnaie courante, et cela vous donne un aperçu de toute la singularité, finalement, qui est celle de Midi Minuit Fantastique, du caractère osé aussi pour deux jeunes étudiants à peine âgés de 20 ans, de se lancer dans cette aventure, ce qui ne signifie pas tout à fait qu'ils étaient les premiers à considérer le cinéma fantastique, à avoir de l'intérêt en tout cas pour le genre. Si on remonte un petit peu dans les archives de la presse spécialisée, on peut trouver, par exemple, en 1962, slide 12, un numéro de la revue Bizarre, donc qui paraît la même année que Midi Minuit Fantastique, sur l'épouvante. Vous pouvez tout de même voir que, en termes de choix d'illustration notamment, on va ici, et dans un dossier consacré plutôt au cinéma d'épouvante classique, on va mettre en avant une image qui n'est plus guère jugée effrayante en 1962. Donc la différence avec Midi Minuit, si vous allez à la slide suivante pour comparer, est tout de même assez importante. Même chose pour Cinéma 57 sur le fantastique. On retrouve ici le loup-garou, mais de manière beaucoup moins choquante et transgressive que dans Midi Minuit Fantastique. Et il y avait bien sûr aux États-Unis, donc cette revue a été évoquée dans le premier extrait juste avant l'entretien avec Michel Caen, la revue Famous Monsters, fondée en 1957. Ici, vous avez un numéro qui date du début des années 60, aussi en relation avec La Nuit du Loup-Garou. Slide 13, qui est donc le film choisi pour illustrer le premier numéro de la revue. Donc on a déjà commenté en cours, lors du premier cours, cette image. Donc je ne le refais pas. Je redonne tout de même quelques points rapides pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette première séance. On peut retenir ici donc le caractère transgressif de cette image, qui véritablement est de l'ordre du jamais vu dans les publications de l'époque que l'on pouvait trouver en kiosque. Une scène extrêmement osée du point de vue de sa violence graphique et de sa charge érotique en même temps, qui détonne par rapport aux publications montrant traditionnellement un couple hétérosexuel se regardant les yeux dans les yeux, exprimant un désir tout à fait normatif, finalement. Ici, on est à l'inverse, dans l'exploration d'une transgression, d'une forme de marginalité, voire de déviance, avec une image que l'on peut interpréter de plusieurs façons. D'une première façon, en relation avec les schémas classiques du film d'épouvante et d'horreur, sans doute, une posture d'agression de la part d'un monstre connoté comme masculin, le loup-garou, et une posture qui est plus une posture passive ou défensive d'une victime féminine montrée en plus sous des allures sexy dans cette posture comme si finalement son corps était aussi offert à au plaisir visuel hein, du public, pour reprendre l'expression de Laura Mulvey. Et en même temps, l'image est plus riche que cela, peut-être plus ambivalente, car la position, la posture, l'expression de la jeune femme hein, peuvent tout aussi bien renvoyer ici à un cri de terreur ou d'appel à l'aide qu'à une expression, un cri de jouissance, la position du visage en particulier, de la bouche, des yeux écarquillés, hein, est suffisamment ambigu, me semble-t-il, pour cela, et c'est sans doute pour cela que l'équipe de MMF a choisi cette image dans une optique de provocation du public, voilà, familial ou petit bourgeois ou conservateur, et en même temps une optique de clin d'œil à un public plus spécialisé, d'amateurs, de connaisseurs, puisque cette image, c'est en fait une illustration qui provient d'une photographie de plateau relative donc au tournage de La Nuit des Loups-Garous. Une image impossible dans le film, puisque dans ce film, la jeune femme que vous voyez à l'image se fait agresser sexuellement au début du film par une créature, et elle va donner naissance, toujours au début du film, au loup-garou, et mourir en couche. Ce qui rend tout à fait impossible la scène que vous voyez ici. Si on suit la piste d'une scène évoquant plutôt un acte sexuel que un acte meurtrier, ça confère à l'image hein, une dimension incestueuse possible qui voilà, est un niveau de lecture, on va dire, supplémentaire adressé à un public susceptible de reconnaître le clin d'œil et donc de se reconnaître comme membre de la communauté que Midi Minuit Fantastique vise à créer ou en tout cas à fédérer autour de ses publications. Parmi les autres éléments sur lesquels j'attire votre attention bon, rapidement, le fait que bien sûr le nom de Terence Fisher apparaisse de manière évidente, valorisante. C'est à la fois, on va dire, quelque chose que l'on peut relier à la politique des auteurs, le fait de faire apparaître le nom du cinéaste et de constituer un dossier autour de sa filmographie, et en même temps quelque chose de tout à fait singulier et tout à fait osé, puisque Terence Fisher, on l'a vu avec l'exemple précédent de Radio Cinéma Télévision, à l'époque n'est pas du tout considéré comme un auteur, c'est vraiment quelqu'un qui est relativement inconnu. Lorsque son nom est connu, c'est plutôt de manière dépréciative, pour voilà, l'accuser de pervertir la jeunesse, et donc il y a dans la volonté de le mettre en avant une façon de se réapproprier la politique des auteurs, et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Midi Minuit Fantastique a pu qualifier sa propre politique de politique des horreurs, hein, dans un jeu de mots évident avec la notion forgée par François Truffaut. Donc ça vous montre ici hein, les circulations qui existent entre les différents types de presse. Midi Minuit Fantastique n'étant pas un périodique de presse savante classique, mais un fanzine, quelque chose qui émerge à l'époque en tant que nouveau type de presse dédié à une culture alternative. Mais il y a bien des circulations avec en particulier la presse savante et un discours tenu par MMF hein, qui pourrait être assez érudit sur sont un objet d'étude, dans une optique aussi de patrimonialisation de ce cinéma. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement important, puisque à l'époque, beaucoup de films ont disparu, et particulièrement concernant le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, des films ont été censurés, ne sont pas visible ou plus visible depuis extrêmement longtemps. Hein. Lorsque MMF publie ce premier numéro, les films d'épouvante classiques de la Universal sont invisibles depuis des années. Et il va donc y avoir un travail de patrimonialisation, un travail d'archives aussi, hein, effectué, de recherche, pour reconstituer des filmographies d'interprètes, la filmographie de Christopher Lee, de Bela Lugosi, etc., pour reconstituer la filmographie des cinéastes, pour produire aussi hein, des entretiens avec, des personnalités de relatives au cinéma de fantastique et d'horreur. Donc faire tout un travail, en fait, hein, qui nous entraîne sur la voie d'une histoire du cinéma alternative. Hein. On est aussi dans une époque où les premiers livres d'histoire du cinéma hein, sont publiés et n'accorde guère de place aux productions jugées marginales. Hein. Et c'est cette marginalité que Midi Minuit Fantastique met en avant dans des logiques qui vont ensuite hein, largement se pérenniser en ce qui concerne la presse dédiée au cinéma de genre. Je vous ai mis slide 14, un petit aperçu quelques couvertures de Midi Minuit Fantastique. Donc, vous avez une idée à la fois des thèmes de prédilection et du travail graphique opéré autour de ces couvertures qui souvent mettent en scène des femmes, des personnages féminins, dans parfois des postures un petit peu lascives, postures qui sont un peu plus troublantes, plutôt liées à un sentiment d'angoisse ou d'inquiétante étrangeté, parfois des monstres. Vous pouvez apercevoir plusieurs des cinéastes qui vont souvent intéresser la revue. Fischer va revenir à différentes occasions, mais on voit ici également Jacques Tourneur ou Roger Corman. Des dossiers sur parfois des thématiques tout à fait inexplorées ailleurs, érotisme et épouvante dans le cinéma anglais, ici, par exemple. La part belle donnée aux stars, aussi, hein, du cinéma fantastique, hein, de la même façon que c'est une cinéphilie qui va se construire ses propres auteurs, Mario Bava, par exemple, elle va construire ses propres figures de vedettes, en particulier de vedettes féminines hein, comme Barbara Steele, à laquelle la revue rendra hommage de manière régulière. Voilà pour ces éléments de présentation. Peut-être je peux rajouter rapidement que les premiers numéros hein, de Midi Minuit ont vraiment été bricolés chez Michel Caen et Alain Lebris, les ont bricolés chez leurs parents sans être payés. Encore une fois, on n'est pas du tout dans quelque chose de dans une entreprise professionnelle, même si ça bénéficie de la direction éditoriale d'Eric Losfeld. Le tirage est d'à peu près 6 000 exemplaires au départ, avec un prix correspondant globalement à 1 euro aujourd'hui, pour un petit format rectangulaire plus petit que les cahiers ou positifs. Certains numéros épuisés rapidement, hein, donc ça montre bien qu'on est sur un lectorat un peu de niche, un tirage qui est confidentiel hein, par rapport à celui des autres revues, mais on voit bien qu'il y a une demande tout de même et que ce petit noyau d'aficionados du cinéma fantastique, Midi Minuit Fantastique, va réussir à le mobiliser. Le numéro 8, consacré à la question de l'érotisme, hein, contribuera en particulier à l'aura sulfureuse de la revue, qui sera interdite au moins de 21 ans durant la majorité des années 60. Michel Caen deviendra ainsi, pour une brève période, comme il aimait beaucoup à le, comme il s'amusait beaucoup à le dire, je cite, le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs, puisqu'effectivement, l'âge légal était fixé à 21 ans à l'époque. Nicolas Stanzik nous explique que Midi Minuit Fantastique, c'est peut-être un dernier point que je peux souligner avant de passer à l'analyse du premier numéro avec vous, ne s'est pas contenté de défricher un domaine méconnu et méprisé. En 10 ans d'existence et 24 numéros, la revue s'est imposée comme une publication à la fois ludique et exigeante, foisonnante et avant-gardiste, en regroupant autour d'elle des spécialistes, mais aussi des plumes d'horizons divers, dans un mélange d'inspiration et d'écriture libertaire, pop, surréaliste, en explorant toutes sortes de territoires, de la Hammer à l'épouvante américaine, en passant par le gothique italien, autant de finalement de figures aussi de monstres, Dracula, Frankenstein, Zaroff, de la contre-culture qui annonce finalement déjà d'une certaine manière, certes particulière, mai 68 et la libération sexuelle. C'est une publication qui a pour intérêt, je l'ai déjà un petit peu dit, mais voilà, ça ne fait pas de mal de le rappeler, de dépasser aussi ces distinctions entre cinéphilie populaire, ordinaire. On est ici dans la construction d'une véritable politique critique, politique des horreurs, nourrie de références littéraires, par exemple empruntées au Marquis de Sade, d'une véritable culture au croisement de l'art légitime et illégitime, une culture donc dite midi-minuiste qui s'est ensuite infiltrée dans d'autres moyens d'expression, à la radio, à la télévision, dans le domaine de la musique également. Et donc on peut considérer aujourd'hui que midi-minuit fantastique a joué un rôle dans la diffusion de cette culture alternative, et il suffit de voilà d'ouvrir par exemple les pages de Télérama aujourd'hui, donc qui quelques années plus tôt s'appelait Radio Cinéma Télévision, et estimait que Terence Fisher allait contribuer à l'éclosion d'une génération de détraqués et de pervers. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir cette revue pour voir que on encense maintenant les films de Terence Fisher. Toutes sortes de publications très légitimes nous proposent des dossiers sur le giallo ou le cinéma d'horreur. Et on peut dire de ce point de vue que Midi Minuit a réussi son pari, a gagné son combat, même si son existence brève est aussi due au fait qu'elle a été victime de beaucoup d'attaques, victime de la censure et de la tourmente judiciaire également qui s'est abattue sur les éditions du Terrain Vague. Je referme la parenthèse, il y aurait mille autres choses à vous dire, mais vous avez la possibilité de vous référer aux travaux de Nicolas Stanzik et à cette intégrale que vous pouvez entreprendre de lire, si vous avez un petit peu de temps devant vous, puisque ça comprend quand même plusieurs bonnes centaines de pages, et on va regarder ensemble le numéro 1, donc dans les slides 15 à 20 qui vont nous accompagner pour la fin de ce séminaire. Vous avez ici le sommaire, donc vous retrouvez plusieurs fois les mêmes personnes l'écriture de plusieurs articles, avec également des filmographies. Donc ça, c'était la spécialité de Jean-Claude Rohmer, de tenter de reconstituer avec sa culture encyclopédique le parcours, les œuvres de Terence Fisher, Peter Cushing, Christopher Lee pour ce premier numéro. La présence de Jean Boulet au sommaire, donc dès le début du numéro, dans une optique aussi de cousinage intellectuel, artistique. Une petite chose auquel il faut faire attention ici, je vous le précise, c'est que je vous ai mis une illustration donc, qui provient de l'intégrale MMF réédité par Rouge Profond et non de la publication originelle. C'est pour ça que le premier article commence à la page 43, puisque en fait avant, dans l'intégrale, il y a une introduction de Michel Kahn et Nicolas Stanzik. Donc la maquette a été refaite hein, de manière donner un écrin aussi somptueux que possible à ces matériaux qui étaient en mauvais état hein, et qui ont dû être ressaisis hein, au niveau du texte. Donc ça ne signifie pas que les choses étaient présentées exactement de cette manière dans la revue, même si hein, le travail d'édition qui a été fait a tenté de se rapprocher tout de même au plus près des choix d'édition et bien sûr des choix iconographiques sans altérer hein, bien évidemment par ailleurs le texte qui a simplement été ressaisi. Alors, on peut recommencer par regarder ensemble quelques extraits. Donc, je vous propose de lire l'article Terence Fisher et la permanence des mythes, puis de rebrancher le fichier audio et donc le PowerPoint. Il s'agit de la slide 16 et le document figure, bien sûr, sur eCampus. Trois éléments par rapport à ce texte de Chamboulet. Le premier, c'est que c'est un article qu'il a écrit sans avoir vu aucun des films réalisés par Fisher. Et bon, c'est un point que voilà, je dois évoquer parce que effectivement, hein, quand on le lit, il parle à plusieurs reprises hein, de films qu'il en fait n'a pas encore vus. Et bien évidemment. Ça pose question, on va dire, hein, par rapport à la fiabilité de ces analyses. Donc, je vous rassure, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on retrouve dans tous les textes de Midi Minuit Fantastique, mais ici, en fait, pour la création du premier numéro, on a commandé hein, manifestement à Jean Boulet un texte un petit peu dans cette optique de parrainage, et il a produit cette réflexion qui voilà, vise à réfléchir à la nécessité en fait de la production Hammer, à son intérêt également d'un point de vue patrimonial, mettre cela en relation avec le projet de la revue, mais voilà, c'est assez effectivement ironique, amusant de constater, d'apprendre, grâce à Nicolas Stanzik, qu'en réalité, il n'avait pas vu les films évoqués. Ça peut être une caractéristique, hein, par ailleurs, de cette cinéphilie, mais comme de la cinéphilie savante, hein, parfois, de délirer un peu sur les films, à partir d'une connaissance un petit peu vague ou de souvenirs un peu confus. Quelqu'un comme Jean Douchet, hein, par exemple, dans son livre sur Hitchcock, analyse parfois des scènes qui n'existent pas tout à fait, ou en tout cas, uniquement peut-être dans son souvenir. Hein. Je me rappelle de descriptions de Vertigo d'Hitchcock qui ne sont guère conformes à ce que l'on peut voir dans le film. Et ça ne veut pas dire bon, que Jean Boulet ne connaissait rien à ces films. Il les connaissait par oui-dire, par des informations tirées de ses amis, par des lectures de documents également obtenu auprès de la Hammer. Et dans ce texte, finalement, il s'adresse surtout aux rares amateurs de fantastique de Paris, plus précisément parmi eux à ceux pour qui le choix de Fisher peut sembler illégitime, et il tente de voilà, les convaincre de l'intérêt de ce choix. Le deuxième point, c'est donc quelque chose sur lequel il met beaucoup l'accent dans la deuxième page du texte, c'est la disparition des films. Donc je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais j'insiste, c'est un contexte, le début des années 60, où les classiques de la Universal sont invisibles depuis 30 ans, Et c'est la raison pour laquelle il insiste à ce point sur, nous dit-il, cette l'entreprise de destruction, le massacre qui se produit par rapport à la production de cinéma fantastique, tant de copies brûlées, de jeux entiers, de photographies mis à la poubelle. Il ne reste déjà plus rien, nous dit-il, de la production fantastique universelle. L'autodafé a fait son œuvre. Et ça inscrit véritablement Midi Minuit Fantastique dans une entreprise de conservation, dans une entreprise de patrimonialisation, en relation directe finalement avec l'entreprise de la Hammer et de Terence Fisher. Donc revitaliser une culture qui a déjà en partie disparu. Et nous dit-il, à juste titre, hein, étudier Fisher, c'est sauver une part de ce qui peut l'être avant que ses propres films ne soient aussi peut-être détruits. Hein. Et ça, c'est vraiment une logique importante qui le sera ensuite dans les fanzines hein, qui vont suivre, de tenter de faire vivre quand même un univers, un domaine qui est, dont l'existence est assez précaire, puisque ces films voilà, ne sont pas... non seulement ne sont pas valorisés autrement, mais sont délaissés par les instances qui assurent la conservation des œuvres, comme les cinémathèques. Troisième point, la notion de résurrection en série, amenée, donc c'est la troisième page de l'article, « L'aspect systématique de l'exploitation des monstres archétypes par Fisher gêne-t-il certains ? Pas moi. Et je veux espérer qu'il continuera longtemps encore et qu'il ira jusqu'au bout de cette résurrection en série. Beaucoup trop de monstres sont encore en léthargie. J'espère bien qu'après Hyde, le fantôme de l'opéra et l'homme invisible, il s'attaquera à Zaroff, le chasseur d'hommes vêtu de noir, à une version nouvelle, etc. etc. » Cette notion de résurrection en série, elle va en relation avec celle de permanence des mythes, qui donne son titre à l'article. Elles sont toutes les deux à relier à l'idée de filiation, autant qu'à la dialectique inventivité-sérialité, hein, qui organise la culture de masse. Finalement, ce qu'il nous dit ici... Hein, Jean Boulet, c'est une idée assez importante par rapport au cinéma fantastique. Il y a voilà, des mythes qui reviennent périodiquement, qui font l'objet d'une réactualisation, et c'est particulièrement évidemment approprié pour le cinéma fantastique, qui nous montre souvent voilà, des morts, des créatures... disparus, qui vont renaître et refaire surface, dont on va ouvrir le cercueil et découvrir la nouvelle identité. Et ici, il fait une remarque tout à fait juste, hein, sans la formuler peut-être de la même manière que moi, mais c'est tout à fait vrai hein, que le film d'horreur a une relation particulière à la sérialité. Et cette idée offre, me semble-t-il, une première légitimation du cinéma fantastique. Si celui-ci a une histoire faite de résurrection en série, hein, c'est qu'il se déploie comme véritable culture ou contre-culture. Et mine de rien, eh bien, c'est une vision de l'histoire du cinéma, une vision alternative de cette histoire qui est signifiée ici à travers ces notions. Slide 17, je passe au texte « Érotisme et sadisme » dans l'œuvre de Terence Fisher. Tout un programme, bien sûr, et je vous encourage à lire le texte avant de rebrancher le fichier audio. Plus précisément, lire le texte, regarder l'extrait. Donc, la venue du vampire dans la chambre de Lucy Holmwood, dans Le cauchemar de Dracula, ça se situe entre la 30e et la 36e minute, et ensuite vous pouvez réécouter le fichier audio. Midi Minuit Fantastique, vous avez pu le voir en regardant le sommaire, hein, est une revue quasi exclusivement hein, écrite par des hommes, et on peut tout à fait retrouver aussi bien dans l'extrait du cauchemar de Dracula que vous avez vu, ou dans le texte, ici de Michel Caen, Érotisme et sadisme, une vision masculine hétérosexuelle assez traditionnelle, Antoine Debac, dans son ouvrage sur la cinéphilie savante, hein, parle d'érotomanie à propos de certaines interprétations, enfin de certaines critiques de François Truffaut, et on peut tout à fait faire le même type de lecture ici, avec cette finalement posture de la jeune femme qui va faire l'objet hein, d'une attaque du monstre, qui est aussi, bien sûr, Dracula, hein, une figure qui peut être associée voilà, à une forme de prédation sexuelle, donc la figure du vampire. Néanmoins, c'est Nicolas Stenzik hein, qui met l'accent sur cette idée, et il me semble que le texte de Michel Caen l'exprime également. Hein. On peut aussi argumenter, me semble-t-il, qu'on ne se trouve pas tout à fait dans un classique rapport de domination masculine unissant bourreau et victime, mais aussi, et peut-être davantage, dans l'exploration d'un désir ou d'un fantasme féminin. En effet, nous restons avec Lucie, alors que nous la voyons se préparer, nous restons dans sa chambre avec elle, alors qu'elle attend hein, littéralement la venue du comte, qu'elle fait enlever les fleurs d'ail, nous dit Michel Caen, qu'elle ouvre sa fenêtre en grand, retire sa croix en toute hâte, donnant à ce geste une admirable signification érotique, puis, pâmée sur le lit, palpitante, haletante dans son déshabillé turquoise, elle prépare tout son être à recevoir le mortel et délicieux hommage du prince des vampires. On peut estimer ici, hein, suggère Nicolas Stanzik, que la revue, même si l'article est écrit par un homme, et sans doute avec ses propres intérêts érotiques, se trouve aussi une préoccupation majeure des baby-boomers qui est relayée dans cette critique, un lien établi entre le cinéma et le champ du débat public, en l'occurrence le rêve d'une sexualité libre, dégagée des contraintes religieuses et morales qui pèsent alors très fortement sur l'ensemble de la société et limitent largement jusqu'alors la sexualité à sa fonction procréative. Cela de manière d'autant plus remarquable que, encore une fois, l'extrait et le critique ici hein, prennent ici plutôt le point de vue de la jeune femme et donc du désir qui peut être le sien au moment où elle attend la venue du vampire. Donc voilà un exemple d'un discours critique, cinéphilique, qui célèbre le droit à la jouissance généralisée, au cinéma et ailleurs, via l'ouverture, permise par plusieurs de ses films, hein, d'une expression assez transgressive de la sexualité, du corps, et de la jouissance des hommes, des femmes, des hétérosexuels et des homosexuels, puisque c'est une autre caractéristique de la revue que d'être ouverte à la pluralité des désirs, et ça, nous en avons une illustration dans la slide suivante, numéro 18, Psychopathia sexualis dans l'œuvre de Terence Fisher, un article qui va faire un petit peu à la fois la liste et l'apologie de toutes les déviances, ou en tout cas de toutes les pratiques considérées comme déviantes socialement, que l'on trouve chez Terence Fisher, donc c'est une sorte de catalogue des horreurs, mais de catalogue des horreurs qui ne font pas l'objet d'un jugement moral, hein. Comme l'écrit Michel Caen dans le texte précédent, hein, derrière les murailles du château, montré dans plusieurs films de la Hammer, spécialement chez Fischer. Les instincts se libèrent, il est donc normal que la violence et la cruauté y règnent en maître, dérivatifs et compléments d'une activité sexuelle trop longtemps réfrénée. Et ce que va célébrer Midi Minuit Fantastique, c'est la libération de cette activité sexuelle trop longtemps réfrénée, qui est aussi, hein, et surtout à l'époque, celle des femmes et des homosexuels. Ces derniers fréquentent d'ailleurs souvent les cinémas de quartier tels que le Midi Minuit. Et on peut relier cela, hein, à effectivement une préoccupation de cette cinéphilie à l'exploration de pratiques jugées interdites. Vous en avez une illustration dans l'article Psychopathia Sexualis, donc qui inscrit l'homosexualité masculine et féminine dans ce catalogue des horreurs, mais encore une fois, dans un contexte où le terme d'horreur est plutôt perçu de manière bienveillante, hein, ce qui n'était pas franchement le cas à l'époque. Donc là aussi, je trouve, ça illustre un des grands intérêts, hein, de cette revue, le fait d'être voilà, parfois un petit peu plus ouverte que le reste de la société sur ces questions de sexualité en particulier. On pourrait avoir l'impression que, parce que c'est une revue dédiée au cinéma d'horreur, elle va finalement être recluse justement à l'intérieur des murailles du château gothique. Et en fait, c'est une revue qui est beaucoup plus en prise sur le monde que bien d'autres revues à l'époque qui baignent encore dans des discours qui sont quand même très conservateurs. Prenez l'exemple de Radio Cinéma Télévision, hein, notamment, qui est indissociable d'un héritage catholique assez marqué, et qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans l'expression de certaines critiques, de certaines valeurs, me semble-t-il. Slide numéro 19, j'enchaîne rapidement avec la dernière slide, voilà, sur Midi Minuit Fantastique, et un autre aspect qui fait la singularité de la revue, sa portée politique, hein, puisque régulièrement vont surgir au détour de plusieurs critiques la prise en compte de questions politiques qui n'étaient guère mises en avant dans le reste de la critique de l'époque. Je vous en trouve un exemple donc ici avec cette critique donc des Étrangleurs de Bombay, un film de Terence Fisher de 1959. Je vous invite à regarder le début du film, puis à rebrancher le fichier audio. Dans ce générique, pardon, du film de Terence Fisher, donc réalisé en 1959, nous sommes en Inde coloniale, possession britannique, en 1826. Et je vous ai simplement proposé de voir ce générique parce qu'il révèle finalement toute la richesse et les multiples niveaux de lecture de ce film. En effet, on nous présente, hein, donc, très sommairement le récit en nous indiquant que une sorte de secte donne libre cours à des pratiques perverses dédiées à la destruction de la vie humaine. Ce culte sauvage, nous dit-on, est si secret que même donc l'administration britannique, hein, qui gère le pays en tant que possession impériale à cette époque, n'est pas au courant de leur existence. Et en fait, il y a ici deux éléments finalement qui nous suggèrent que les sauvages ne sont peut-être pas tout à fait ceux auxquels on pourrait penser au premier abord. En effet, un ensemble de personnes qui dédient leur activité à la destruction de la vie humaine, c'est une phrase qui pourrait tout aussi bien s'appliquer justement aux occupants impériaux de l'Inde à cette époque, et on sait hein, que le royaume britannique hein, a grandement contribué à déposséder l'Inde de ses richesses, à les piller, pour le dire plus franchement. Donc là, il y a un premier double sens, et ensuite, hein, un culte si secret que même les autorités politiques, militaires britanniques ne sont pas au courant de son existence, c'est une phrase qui révèle en fait ou souligne l'incompétence tout simplement de cette gestion impériale, l'incapacité des soldats britanniques à faire régner l'ordre et à se rendre compte hein, tout simplement de ce qui se passe. Et tout le reste du film en fait va vous montrer les autorités britanniques être tellement incompétents finalement que ce sont eux en fait la source des problèmes, notamment de pauvreté, de faim, de famine, qui sont ensuite visibles par le récit. Et la secte dite sauvage, hein, que l'on aperçoit, relève à ce titre bien davantage des conventions bon, du cinéma d'horreur hein, que d'une dénonciation de ces pratiques sectaires. Ce sont plutôt les pratiques de l'armée britannique qui sont considérées dans le film comme destructrices, impérialistes, etc. Et ça, c'est tout à fait remarquable de constater que Midi Minuit Fantastique l'a perçu dès 1962, alors dans un contexte qui est tout à fait particulier, hein, puisque nous, la France vient de vivre, de subir différentes années de conflits avec évidemment l'Algérie, dans une atmosphère également extrêmement violente, et la guerre d'Algérie, ou révolution algérienne, vient de s'achever en mars 1962, mettant fin au processus de colonisation. Donc, bien sûr, l'écho avec ce contexte et la responsabilité hein, de l'armée française dans la violence de ces événements, on peut tout à fait faire le parallèle voilà, avec le discours qui est tenu dans le film et la critique donc, de Midi Minuit, qui tient à mettre en avant, effectivement, au détour de cette phrase, le fait qu'il s'agit d'un des films les plus anticolonialistes projetés sur les écrans. Ce qui transparaît dans ce discours critique, hein, finalement, c'est un rejet, nous propose Nicolas Stanzig, des formes d'autorité. Midi Minuit Fantastique se veut d'abord une revue ludique, elle n'a pas de vocation révolutionnaire, elle se situe dans une forme d'hédonisme cinéphile, mais un hédonisme qui s'inscrit dans un rejet général des formes d'autorité, en écho aussi avec les protestations des milieux étudiants progressistes qui ensuite évidemment mèneront jusqu'à mai 68. Donc c'est finalement un peu cette mouvance libertaire, anticonformiste, politiquement engagée sur certains aspects, tout en étant avant tout engagée dans la célébration d'une culture marginal, non autorisé ou sortant des normes, hein, qui est célébré dans Midi Minuit Fantastique. Ça, je passe pardon à ma dernière slide, c'est la slide 20, et je vais simplement vous dire quelques mots en fait pour vous inviter à poursuivre voilà de votre côté un petit peu les pérégrination du séminaire. Midi Minuit Fantastique a laissé un héritage conséquent, particulièrement localisé autour des fanzines et de la presse dédiée au cinéma dit de genre. Publications qui commencent à faire l'objet d'un certain nombre de travaux, même si pendant longtemps elles ont été tenues à l'écart, mais de fait elles se situent elles-mêmes hein, en marge de des publications autorisées, même si plus récemment, effectivement, des revues comme Mad Movies, L'écran fantastique, ont réussi à s'imposer dans le champ des revues commerciales, tout en gardant un petit peu leur spécificité, et notamment leur spécificité héritée du fanzina, puisque d'un côté comme de l'autre, Mad et L'écran étaient des fanzines au départ. Donc, je n'ai pas le temps de me lancer dans toute une explication sur le fanzina. C'est normalement dans le séminaire, dans le programme du séminaire, c'est aussi pensé comme une ouverture vers d'autres types donc de sources qui ont pour caractéristique principale d'être des publications amateurs à destination d'autres amateurs. Donc, elles ne relèvent pas d'une fabrication professionnelle, même si différents fanzines ensuite se sont professionnalisés à l'image de Mad et de L'écran. Le point sur lequel je veux mettre l'accent, et je vous propose de lire ce document de Jean-Pierre Peters, extrait du numéro 14 de Mad Movies, à l'époque où Mad était encore un fanzine. Zine Story, archive des fanzines de cinéma fantastique. Un des problèmes, évidemment, particulier au fanzina, hein, c'est la difficulté d'en faire l'histoire, la difficulté d'avoir accès, même souvent aux publications qui, par définition, ont un tirage extrêmement limité, sont des revues fait maison, un petit peu bricolées, avec les moyens du bord, qu'il n'est pas facile de trouver, voilà. Et forcément, un paysage aussi éclaté, un rend très difficile de conserver, de collecter, de collectionner, ou tout simplement de connaître ces publications. Et de ce point de vue, il est important de souligner que ce sont les artisans du fanzina, hein, qui eux-mêmes ont entrepris de faire l'histoire de leurs pratiques, et cela est mis en évidence donc dans cet article que je vous invite à lire, sous-titré « Archives des fanzines du cinéma fantastique ». Donc très tôt, vous pouvez le voir, hein, il y a eu une conscience très forte de la nécessité d'entreprendre de leur côté cette histoire, sinon personne n'allait le faire à leur place. Et voilà, si le cœur vous en dit aussi, hein, je vous invite à vous être sensible à tout ce continent, hein, qui se situe un peu à l'écart de la presse traditionnelle, mais qui constitue des sources vraiment extrêmement riches, qui commencent heureusement à faire l'objet de travaux, par exemple ceux de Johan Chanoir ou de Quentin Mazel. Si vous souhaitez des références, n'hésitez pas à me les demander. Je vous quitte avec cette slide 21, qui est une slide de remerciement pour votre attention durant ce semestre. Évidemment, ça a été un semestre un petit peu compliqué à mettre en place en termes de conception, hein, d'organisation, de gestion du cours, de l'enseignement à distance. J'espère malgré tout, voilà, très sincèrement, que ce dispositif un petit peu expérimental vous a plu. Il y a sûrement évidemment des choses qu'on n'a pas pu faire. Également, un système, voilà, qui n'est pas aussi pratique que le cours en présence, qui ne saurait le remplacer, hein, d'ailleurs. Donc c'est quelque part, ça me rassure presque si vous me dites que ce n'est pas aussi bien ou que ce n'est pas aussi précis ou aussi agréable à suivre qu'un cours en présence, parce que voilà, l'enseignement, ça doit être en présence, et a priori, je ne vois pas d'autre façon de faire, en tout cas de mon côté. Malgré tout, j'ai essayé et j'ai fait de mon mieux, et j'espère avoir su répondre à vos attentes, à avoir trouvé un moyen, voilà, agréable autant que possible de suivre ce cours avec le fichier audio en streaming, le PowerPoint mis à disposition, les différents documents et extraits. J'espère que ça vous a donné des outils, des repères, que ce soit historique ou méthodologique, pour avoir envie de continuer à explorer ce vaste et beau continent, hein, qui est la presse de cinéma. Donc moi, je ne m'en lasse pas. Et j'espère vraiment, très sincèrement, vous retrouver de l'autre côté de l'écran. cher à John Carpenter ici, ce petit clin d'œil à Invasion Los Angeles, pour voilà, vous retrouver de nouveau en présence, sans forcément passer par des dispositifs technologiques, voilà, entre nous. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous souhaite une excellente poursuite d'études. Merci à vous. Bonne continuation.